Le débat du jour. Nathanaël Vitran.
C'est aujourd'hui le jour de l'équinoxe, le jour du printemps. Si vous vivez en France, à la campagne, vous êtes susceptible d'entendre ces chants d'oiseaux. Les ornithologues amateurs auront peut-être reconnu la fauvette grisette, le bruant ortolan ou encore l'alouette des champs. Mais des chercheurs préviennent, le printemps cette année pourrait être particulièrement silencieux. La population de ces espèces dans les campagnes de France a baissé d'un tiers en 15 ans. La faute à une agriculture de plus en plus intensive. Est-il encore temps de sauver les oiseaux des champs ? C'est notre débat du jour, soyez les bienvenus. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Romain Julliard, bonsoir.
Bonsoir.
Romain Julliard, vous êtes professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, biologiste de la conservation. Également en ligne avec nous, Baptiste Gatouya, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes agriculteur et vice-président du syndicat des jeunes agriculteurs. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Romain Julliard, je vais commencer avec vous. C'est le Muséum National d'Histoire Naturelle pour lequel vous travaillez, en collaboration avec le CNRS qui tire la sonnette d'alarme aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez résumer en quelques mots la situation ?
Bien, les suivis que mènent les ornithologues amateurs sur une base du volontariat, selon des protocoles qui sont établis et assez standardisés que nous proposons, mesurent chaque année les abondances des effectifs des oiseaux nicheurs en France. Et depuis longtemps, on constate le déclin de ces espèces spécialistes de milieux agricoles, un déclin qui avait fait, semble-t-il, une pause dans les années 2000-2010, qui a repris plus récemment, et les deux chiffres qu'on vient de publier, 2016-2017, montrent une forme d'accentuation de cette diminution qui nous a un peu stupéfait et effrayé. Et on s'est joint avec notre collègue du CNRS de Chizé, qui mène des enquêtes très intenses et approfondies sur sa zone d'étude.
Donc qu'on comprenne bien, ce sont les oiseaux spécifiquement dont l'habitat sont les zones agricoles, c'est cela, hein ?
Voilà, tout à fait. C'est ceux que vous avez cités, l'alouette des champs, le bruant proyer, la bergeronnette printanière, le vanneau, la perdrix grise, perdrix rouge, des oiseaux qui dont les noms vous seront sans doute familiers, parce qu'ils font partie de ce patrimoine qui s'est construit dans ces paysages, qui a accompagné l'agriculture depuis des centaines d'années en France, et qui symbolise notre campagne et qui est en train de s'évaporer sous nos yeux.
Donc on parle d'un tiers de la population qui a disparu en 15 ans, c'est énorme. Baptiste Gatouya, vous possédez, je crois, 225 hectares de culture. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu vous-même constater, ou au moins est-ce que cette étude vous inquiète ?
Alors oui, sur l'étude, c'est vrai qu'on peut, on peut être inquiet, parce que la biodiversité, comme les oiseaux, comme tout ce qui entoure nos exploitations, qui fait qu'on a un écosystème en équilibre, ça nous inquiète. Et c'est vrai qu'on a pu constater parfois, alors c'est vrai que la chute qu'on a brutale de ces dernières années, on peut pas l'expliquer, parce que justement, on a changé nos méthodes depuis maintenant bien 10-15 ans qu'on évolue dans nos méthodes.
Les méthodes de quoi ? De culture ?
De culture, voilà. Pour préserver la biodiversité, utiliser moins de produits phytosanitaires, moins de produits, moins d'intrants dans nos champs. Et finalement, on ne se l'explique pas de l'étude, donc ça montre peut-être un approfondissement de notre part pour connaître les causes exactes qu'il peut y avoir. Et en tous les cas, nous, on essaye au jour le jour de favoriser cette biodiversité. Enfin, voilà, moi, j'installe des perchoirs dans mes cultures pour qu'ils puissent, les oiseaux, que ce soit des rapaces ou autres, puissent se poser dessus pour se nourrir soit d'insectes, soit de vers de terre. Voilà. Alors nous, on a des populations d'oiseaux qu'on n'arrive pas à maîtriser, parce qu'ils sont des corbeaux, des pigeons qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et cela se développe beaucoup. Et à d'autres.
Ouais, ce ne sont pas ceux-là qui sont en voie de disparition aujourd'hui.
Hein. Voilà, c'est pas ceux-là qui sont en voie de disparition. Et donc du coup, on a des oiseaux qui se développent et d'autres qu'on n'arrive pas à
contrôler. Je voulais donner la parole à Romain Julliard, parce que vous me disiez, on ne comprend pas ce qui se passe, nos méthodes ont évolué, on essaye de faire attention. Qu'est-ce qui explique ce phénomène, d'après vous, Romain Julliard ?
Alors c'est vrai que c'est très difficile de faire une démonstration, et de dans la mesure où on a un seul pays et une seule série temporelle pour établir ces chiffres et essayer de trouver des explications. Ce qu'on sait, c'est que dans il y a certaines zones, effectivement, dans lesquelles la biodiversité est relativement préservée. On a montré que Natura 2000, par exemple, dans le milieu agricole, a un effet ralenti ces diminutions à l'échelle.
Natura 2000, ce sont des normes qui ont été mises en place.
C'est des politiques de préservation. On sait que l'agriculture biologique est beaucoup plus riche et puis qu'il y a des pratiques qui favorise la biodiversité. On a vu que le non-labour, quand il est associé à du semi-direct pour des céréales ou du colza, est assez favorable aux chauves-souris ou à ces espèces qui déclinent, comparé à d'autres techniques un peu plus
intensives. Dans les facteurs explicatifs qu'il y avait dans l'étude, vous expliquez que le fait que le cours du blé a explosé dans les années 2008-2009 avait provoqué, en tout cas faisait partie des facteurs qui pouvaient expliquer cette chute de la biodiversité des oiseaux. Comment est-ce que les deux sont liés?
Alors c'est une hypothèse. En tout cas, il y a une coïncidence entre la fin de la politique des jachères qui date un petit peu de ces fins des années 2010.
Donc les jachères, juste pour expliquer en deux mots, ce sont les champs qu'on laisse au repos en quelque sorte pendant quelques saisons pour laisser la terre se reposer.
La politique agricole commune imposait un minimum de jachères dans les paysages qui a été supprimé du jour au lendemain. C'était ou pas des effets positifs, mais en tout cas c'était une sorte de tournant à l'échelle macroscopique, hein, ce qui n'empêche pas que ici ou là il se passe des choses très différentes, mais où les assolements en blé ont vu certaines années des assolements très importants. Par exemple, un peu en spéculation sur la guerre en Ukraine ou des choses comme ça, où on sent que ce genre de phénomène. On a revu des taux de nitrate dans les sols très importants, probablement liés à...
Excusez-moi, j'ai pas compris le lien entre la guerre en Ukraine et le...
Alors que l'Ukraine était un producteur de blé, donc il y a une spéculation sur les prix probables du blé qui ont fait que... l'augmentation des prix du blé qui ont fait qu'on en a beaucoup... planté.
Je vais laisser Baptiste Gatouillard répondre et réagir.
Ouais, non, parce que là, faut aussi quand même qu'on... Enfin, les surfaces en blé en France, elles varient très peu d'une année sur l'autre, même quand les cours sont élevés. En fait, nous, on a un système où on a des successions culturelles. On fait pas qu'une année que du blé, que de betterave, que du colza, que de l'orge. En fait, on a une succession de cultures. Alors, ça varie à la marge de quelques pourcents sur nos exploitations, mais on dit pas un coup, on fait plein de blé, et après, on fait plus rien. En fonction des cours, on adapte nos assolements.
Même à l'échelle de la France et de tous les agriculteurs
même
qui sont...
Même à l'échelle de la France, en fait, la variation, elle est minime. On passe pas... Alors oui, on produit un peu plus de tonnes, mais c'est parce que, voilà, avec tout cumulé, mais c'est pas... On met pas toute la surface de nos champs en blé. Et c'est ça. Et en fait, ça, pour moi, si ça a une incidence, c'est complètement... pour nous, on le
c'est
ressent
marginal
pas,
pour vous.
C'est marginal. Par contre, ce qui marche, c'est... quand on met ensemble sur le terrain les personnes qui font les relevés pour la Ligue de protection des oiseaux par exemple, moi dans mon champ de blé, j'ai protégé à la veille de la moisson des nids d'oiseaux parce qu'ils étaient venus nicher dans mon champ de blé. Donc on voit bien que le milieu, même dans un champ de blé, peut être propice au développement de certaines espèces. Donc pour moi, alors j'ai pas analysé, j'ai pas peut-être le niveau d'étude et la capacité à analyser.
Non, mais vous avez une expérience de terrain, donc c'est intéressant.
Voilà, mais j'ai l'expérience de terrain et de me dire qu'est-ce que l'on peut faire justement, parce que les oiseaux on en a besoin, parce que ça nous mange les insectes, et donc du coup on évite d'utiliser des insecticides, et donc du coup si on évite d'utiliser des insecticides, je dépense pas d'argent, je gagne plus d'argent. Donc voilà. Et, du coup, en fait, il faut aller vraiment dans cet aspect d'aller de l'avant et pas de se dire de chercher des contextes géopolitiques de spéculation financière qui engendrerait la perte des oiseaux.
Romain Julliard, sur cette idée de collaborer vraiment avec le monde agricole, c'est important pour vous ?
Je vois pas d'autre solution pour renverser la tendance. Je pense que effectivement, les solutions sont entre les mains des agriculteurs, et je suis assez d'accord sur le fait que probablement ils savent collectivement et individuellement beaucoup mieux ce qu'il faudrait faire que les chercheurs qui donc ils sont pas du tout assez nombreux pour répondre à toutes
mais qui constatent un phénomène qui jusque-là nous avait échappé quand même,
qui dont l'ampleur et la persistance effectivement sont assez inattendues.
Baptiste Gatouillot, si j'en crois votre fil Twitter, vos interventions par ailleurs, vous vous intéressez à l'innovation dans le domaine de l'agronomie. Est-ce que le respect de la biodiversité et des oiseaux en particulier fait partie des domaines à l'étude ?
Ah oui, toute la biodiversité dans son ensemble, là, via la stratégie nationale de biodiversité, qu'on a signé avec le gouvernement, sur le terrain des initiatives qui se font. Alors, que ce soit à travers des syndicats, des groupements d'agriculteurs, il y a des choses qui se font, c'est vraiment pris en compte, c'est ce que vos auditeurs doivent bien comprendre, c'est qu'il y a des choses qui sont faites. Par contre, il y a des choses sur lesquelles nous on se heurte. Moi je viens dans d'une région où il y a de l'artificialisation des sols. On a remplacé aussi des sols agricoles, même dans les communes, les petites communes ou les agglomérations, par des industries, par d'autres choses. Alors ça fait du développement économique, on n'est pas contre, à partir du moment où c'est bien géré. Et puis moi j'ai un truc qui me vient à l'esprit, c'est que il y a beaucoup d'éoliennes, par exemple, dans mon secteur, et qui ont en permanence des lumières qui clignotent toute la nuit. Et nous, des fois, on se pose un peu la question aussi de se dire que finalement, est-ce que cette luminosité ambiante toute la nuit, ça n'a pas non plus une perturbation sur ces petits oiseaux qui nichent et qui ne sont pas encore peut-être habitués à ce rythme nouveau de la nature, avec des interactions extérieures.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, sans jeter l'opprobre sur le monde agricole dans l'ensemble, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même eu une industrialisation de l'agriculture par endroit, une utilisation plus importante des pesticides, peut-être avec des abus à certains moments, qui pourrait quand même expliquer ce phénomène en partie
Ça, je pense que sur les études il y a 20 ou 30 ans, je pense qu'on... Peut-être que oui, parce qu'on nous avait dit que voilà, vous pouvez utiliser ces produits-là sans problème. Il n'y avait pas peut-être les études d'impact qu'on a maintenant, mais sur ces 15 dernières années, moi ça fait 11 ans que je suis installé agriculteur. Je savais déjà quand il y a 11 ans les contraintes, on va dire, si on peut appeler ça des contraintes environnementales, mais tout ce qui est préservation de la biodiversité que l'on avait besoin. Donc cette chute brutale de ces dernières années, nous on a du mal à la comprendre. Voilà, c'est ça. On ne sait pas d'où ça vient. Parce que du coup, les efforts, on les a faits, et du coup, on peut pas mettre ça sur le dos des pratiques d'il y a 30 ans, parce que si on prend les insectes, tout ça, c'est des choses qu'on fait actuellement, donc on utilise moins d'insecticides.
Juste pour qu'on comprenne bien en quoi l'utilisation de pesticides pourrait avoir un impact sur les oiseaux, Romain Julliard, en fait, on tue les insectes avec des pesticides, mais ça a un impact sur les oiseaux comment ?
C'est leur nourriture, en fait. On les prive de leur nourriture, des insectes et de toutes les graines issues des mauvaises herbes. Donc, il y a une ressource qui est celle qui est directement liée à l'agriculture. Les pigeons qu'on citait tout à l'heure se profitent des pousses et du maïs qui peut rester ou de choses comme ça. Mais la plupart des spécialistes agricoles se profitent du reste de la biodiversité sauvage, interstitielle, qui a dans ces paysages, tout en jouant, effectivement, dans pas mal de cas, des...
Pour être un peu cynique, en quoi c'est important pour l'homme que ces disparitions d'oiseaux, est-ce que c'est vraiment le sommet de l'iceberg? C'est-à-dire que c'est le signe d'une biodiversité qui se dégraderait de manière plus générale?
Alors certainement, ça doit nous alerter sur ce fameux équilibre de l'agriculture par rapport à son environnement, sans que vraiment il y a un lien de cause à effet ou qui soit vraiment très très établi. Malheureusement, là on se heurte aux limites de la connaissance, mais c'est aussi la perte d'un patrimoine. Je pense que ça fait partie de la richesse et d'un bien commun d'avoir ces paysages, cette nature. C'est des paysages où on entend des chants d'oiseaux, on voit des papillons voler. Ça fait partie de la richesse et d'une richesse qui, malheureusement, échappe en grande partie à l'économie d'une exploitation.
Avant de continuer, je voudrais vous faire écouter à l'un et l'autre un court extrait du discours d'Emmanuel Macron, le président français. C'était lors des États généraux de l'alimentation à l'automne dernier.
Il importe aussi de mieux valoriser et rémunérer les services environnementaux que les agriculteurs sont capables de rendre à la collectivité en agissant pour préserver les sols, les eaux, la biodiversité et rémunérer de manière juste ces services. J'ai pris un engagement, il sera donc suivi d'effet, 200 millions d'euros pour la rémunération de ces services environnementaux en plus de ce qui était décidé.
Baptiste Gatouillat, je ne sais pas si vous étiez à Rungis pour assister à ce discours en octobre. Quels moyens, en tout cas, faudrait-il aujourd'hui vous donner pour faire réellement des agriculteurs les protecteurs de la diversité, de la biodiversité, et pas seulement des producteurs?
Bah écoutez, oui, on est des producteurs de produits alimentaires. On est en capacité aussi d'être producteurs de biodiversité, de pouvoir aussi gommer les effets néfastes d'autres pratiques qui ne sont pas forcément agricoles. Mais donc du coup, dans la rémunération des prestations services environnementaux, c'est quelque chose qu'on a toujours demandé à nos politiques. Et, de pouvoir, voilà, on rend un service aussi à la société, à la nature, voilà, parce qu'on a une activité qui parfois peut avoir un impact sur l'écosystème. Mais là, si vous voulez, nous, on se propose d'aller encore plus, de pouvoir offrir un service à la nature, aux concitoyens, de pouvoir continuer à avoir une biodiversité. Donc, du coup, on demande à être rémunéré parce que c'est aussi des coûts pour nous supérieurs. Par exemple, si on a un plan de haies, on supprime une surface qu'on a mis en production qui nous permettait d'avoir un revenu à l'hectare, de remplacer par une haie, mais qui ne va pas nous rapporter d'argent. Mais du coup, on laisse un peu d'espace agricole pour la biodiversité, donc on rend un service environnemental. Donc voilà, on se fait rémunérer notre service environnemental, parce qu'on perd des terres avec l'artificialisation pour la construction de nos citoyens, de développement économique. Donc voilà, la biodiversité.
Donc ça devrait voilà, se rémunérer. Romain Julliard, je vous vois opiner du chef.
Oui, je pense que c'est vraiment la voie, c'est de trouver ces leviers économiques.
Est-ce qu'il faut les conditionner tout de même, ces aides aux agriculteurs, pour les orienter?
Peut-être l'exemple des haies, il est un petit peu caricatural, mais...
En quoi c'est important, les haies, en deux mots, peut-être?
Alors les haies sont importantes, les haies naturelles sont importantes pour la biodiversité, parce que c'est des ressources pour toutes sortes d'espèces
Les oiseaux peuvent y faire leur nid, par exemple?
Leur nid, s'y poser, s'y trouver des compléments alimentaires dans leur cycle de vie. Bien souvent, les aides pour replanter des haies, ça va se faire au détriment d'une agriculture et ça va se être conditionné à une facture d'un pépiniériste chez lequel on est allé planter des haies, chercher des plants, et alors que une haie, ça se fait avec les moyens du bord, les arbustes qui viennent des petits bois à côté, et qui seraient bien plus pertinents pour la biodiversité. Et donc une des voies, ce serait de au lieu de ce qui est la plupart de la politique agri-environnementale, de payer pour faire de payer pour faire plus de biodiversité. Et ça, c'est un changement un peu de paradigme qu'on devine, hein, dans l'idée de faire des paiements pour services environnementaux, mais qui...
Baptiste Gatouillat, je vais vous faire réagir là-dessus. Est-ce que ça devrait être une politique européenne?
Alors la politique européenne en matière de biodiversité, alors sur l'environnement, on l'a déjà avec les aides de la PAC, on a une partie qui est liée à l'environnement. Et par exemple, on avait des surfaces d'intérêt écologique qui représentent à peu près 7% de notre surface. Et donc on pouvait implanter des haies, des jachères mellifères. Et en fait, on est sans cesse en train de revoir ces implantations. Et par exemple, les haies faisaient un équivalent. Et donc on pouvait implanter des haies. Mais finalement, on nous l'a sorti de la liste parce qu'on avait jugé ça peut être pertinent. Alors que finalement, en termes de biodiversité, une haie... Donc on a des agriculteurs qui avaient investi de l'argent dans ces haies, qui finalement, au bout de 2 ans, se sont retrouvés à pu avoir...
Il y a un manque de cohérence, vous nous dites.
Ou un manque de cohérence, voilà. Dans les politiques environnementales, en fait, on fait du court-termiste. En fait, nous, on réfléchit à 5-10 ans dans nos investissements d'exploitation, parce qu'on a des cycles de production longs. Ça doit être de même en biodiversité. La biodiversité, c'est pas comme quand on fait un bouton marche-arrêt. Ça met du temps, il y a un cycle de reproduction, des choses comme ça. Donc le changement, on le voit pas en 6 mois, on le voit en 5, en 4, 5 ans. Voilà, moi j'ai de plus en plus de sauterelles dans mes champs, donc il y a des choses qui se passent. Donc voilà, ça prend du temps.
Merci. Merci beaucoup, ça prend du temps, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux, Romain Julliard, Baptiste Gatouillat, d'avoir été avec nous. Romain Julliard, je rappelle que vous êtes professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle et biologiste de la conservation. Baptiste Gatouillat, vice-président des Jeunes Agriculteurs, agriculteurs vous-même évidemment. Merci également à Florence Ponce et au service documentation de RFI pour leur aide dans la préparation de cette émission. À la réalisation, il y avait ce soir Nicolas Benita, merci aussi à lui. Le débat du jour à retrouver sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, vos réactions, c'est sur Facebook et Twitter.